On va donc reprendre avec une intervention de Guillaume Hatt sur les portails documentaires. Donc, Guillaume Hatt travaille au SCD de l'Université de Valenciennes. Il est responsable de la cellule TIS et il s'occupe également de l'informatique de la bibliothèque. Il a été chef de projet réinformatisation et SID, d'où son intervention. Alors, on a jusqu'ici abordé le cas du document numérique dans sa dimension de publication, diffusion et de préservation. Et dans les deux cas, on s'est rendu compte que le document numérique était protéiforme et qu'il était important d'avoir une interface d'accès et de recherche qui facilite la visibilité et l'appropriation par l'usager. C'est l'un des rôles des portails documentaires mis en place par les universités dont Guillaume Hatt va nous parler. Alors avec ces portails documentaires se pose aussi la question de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, puisque rarement une université et un SCD qui met en place un portail documentaire arrivent sur un terrain neutre et vierge de toute initiative. Bien souvent, il y a plusieurs projets en cours ou bien déjà des réalisations qui ont été effectuées soit au niveau local ou au niveau national. Donc il y a une question de l'articulation entre des choses comme les UNR, les UNT, le portail ABES, les portails locaux que sont les environnements numériques de travail, et puis les sites web des SCD et les SID qu'on essaie de mettre en place. Et puis toute la thématique de la transversalité qu'impliquent ces projets, puisque ce sont souvent des projets qui sont initiés par l'université, dont le SCD est maître d'œuvre, mais qui impliquent le travail conjoint avec d'autres services de l'université, parfois de l'interuniversitaire. On va laisser peut-être Guillaume Hatt nous présenter les portails documentaires.
Alors, pour préciser un peu enfin, d'où je vais parler, donc ce sera les portails documentaires à partir de l'exemple de Valenciennes. Quelques aspects, notamment donc, sur le métier, sur les méthodes de travail. Le contexte lui-même, donc c'est celui d'une petite université, on va dire 10 000 étudiants, pluridisciplinaire, avec une dominante de sciences. Ce qui est particulier, c'est qu'elle a été, elle est impliquée comme un des développeurs du noyau ESUP, c'est-à-dire l'environnement numérique de travail retenu par un certain nombre d'universités aujourd'hui. À ce titre-là, le SCD donc, devait s'intégrer dans ce projet et a été soutenu donc, par le ministère comme un site pilote pour mettre en place ce qu'on appelle donc, un portail documentaire, ce qu'on appelle aussi un SID, système d'information documentaire. Voilà. Pour contextualiser complètement, puisque les choses évoluent très vite quand même, je précise que l'appel d'offres a été rédigé en 2002 et que le marché a été notifié en fin 2003. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. C'est pas tout à fait le même contexte qu'aujourd'hui. Pour continuer sur l'historique, d'où on venait. Voilà. Ça, c'est à peu près le cas de tous les SCD, de toutes les bibliothèques un peu numériques, on va dire, ou intéressées déjà par le numérique. Elles ont un catalogue, donc l'OPAC, elles ont un réseau de CD-ROM. Généralement, c'est ce genre de choses qu'on a envie d'évacuer rapidement, mais il y en a toujours, malheureusement. Elles ont des ressources électroniques, ces bibliothèques, essentiellement des bases de données, des périodiques électroniques. Et à côté de ça, on a des choses plus hétérogènes, plus difficiles à gérer, une partie institutionnelle, donc toute la communication de la bibliothèque, les horaires d'ouverture et le règlement, pour caricaturer. On a également des documents numériques, ça peut être des annales, ça peut être effectivement le règlement, comme ça a été le cas chez nous. Et par ailleurs, donc depuis plusieurs années déjà, on a des catalogues collectifs. Alors, donc le SUDOC, OCLC auparavant, etc. Donc ça, c'est ce qu'il fallait intégrer. C'est le point de départ de toutes les, enfin, des bibliothèques numériques avant la mise en place d'un portail documentaire. La mise en place d'un portail documentaire, c'est au contraire le point d'accès unique. Ça, j'en reparlerai plus précisément, mais c'est vraiment le critère fondamental. C'est un seul écran. Un seul écran qui doit donner accès au maximum de toutes les ressources que je viens de vous lister. Que ce soit simplement un point d'accès ou que ce soit par le biais d'un moteur de recherche. Donc là, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche multibase ou une recherche fédérée. Je vous montrerai un exemple si j'ai le temps. C'est interroger à la fois ScienceDirect, le SUDOC, le catalogue local et telle ou telle autre base, type MLA ou n'importe quoi. Tout ça, c'est possible grâce à certains protocoles qui se sont imposés, donc ce que j'appelle l'intégration de toutes les sources dans des protocoles standards. On est arrivé donc à un moment où on peut, à partir de sources tout à fait hétérogènes, intégrer l'ensemble de ces sources sur un seul écran. Ce qui est en bas de la page, donc ce que j'ai appelé vers une intégration complète ailleurs, ça, c'est une spécificité de Valenciennes qui concerne un certain nombre de SID aujourd'hui, c'est l'intégration directe dans l'environnement numérique de travail. Donc en Rhône-Alpes, ça doit être Agora, si mes souvenirs sont bons. Chez nous, c'était ESUP, c'est-à-dire le bureau virtuel de l'étudiant qui lui donne accès à son emploi du temps, à ses données, à ses notes, à une base de stockage de documents, à des signets, des choses comme ça, mais aussi à toutes les ressources documentaires de l'université, donc au portail documentaire. La particularité du portail de Valenciennes, c'est qu'il a vocation, portail documentaire, pardon, c'est qu'il a vocation à disparaître. Alors c'est un peu particulier de le dire comme ça, mais on a mis en place un outil qui doit être entièrement repris dans l'environnement numérique de travail. Et si on va jusqu'au bout de notre logique, le portail documentaire n'a plus lieu d'être. Tout ce qui est fait par le portail documentaire est repris ailleurs. Pourquoi c'est possible aujourd'hui? Ça, je pense que c'est aussi important de le dire. On a un certain nombre de facteurs qui se rassemblent, à la fois techniques et politiques. Dans les facteurs techniques, on a aujourd'hui des standards bien implantés. Donc j'en ai mis qu'un XML. On pourrait avoir le standard HTTP qui est en train de s'imposer, qui s'est imposé très largement. On a des formats ouverts, donc ça on en a déjà un peu parlé sur les documents numériques, qui nous permettent de reprendre normalement ailleurs où on veut l'ensemble des métadonnées, l'ensemble des données des documents. Un point à la fois technique et politique, je pense que c'est aussi la prise en compte aujourd'hui de la logique de l'open source, voire du logiciel libre, à l'échelle des marchés publics. Alors ça peut paraître tout à fait anecdotique, mais en fait, si vous parlez d'interopérabilité, c'est-à-dire de possibilité d'intégrer différents composants où vous voulez, il faut avoir en fait la main quasiment sur le code source. Autrement dit, il faut pouvoir bricoler directement dans les logiciels et non pas être soumis au bon vouloir, on va dire, du fournisseur qui met en place telle ou telle fonction quand ça l'arrange lui. Alors, ce n'est pas partagé par l'ensemble de la communauté. Je pense qu'au niveau de Valenciennes, dans le projet d'intégration, notamment, c'est un des facteurs qui ont fait que, pour l'instant, on va dire, ça fonctionne à peu près. Cette donc interopérabilité, elle est accrue aujourd'hui avec un certain nombre de protocoles. On a parlé un peu de l'OAI déjà. C'est quelque chose, justement, je vous disais que ce cahier des charges et ce portail avaient été mis en place en 2003. Donc l'OAI, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte à l'époque, puisque c'était émergent, qu'on ne voyait pas du tout si ça allait démarrer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a demandé à rajouter, comme une sorte de mise à jour, on va dire. Donc c'est ce genre de protocole qui permet à terme de récupérer où on veut les données produites au niveau du portail, donc produites au niveau du portail documentaire. Donc dernière chose, beaucoup plus politique cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des portails documentaires? Avant tout parce qu'il y a une demande des institutions. Alors quand je dis institutions, c'est dans notre cas c'était l'université, puisqu'on a eu la chance d'avoir la conjonction donc d'un intérêt croisé, on va dire, au niveau de la présidence de l'université, au niveau du responsable du CRI, donc du service informatique, et au niveau donc du directeur du SCD. En fait, il y a plus de choses que ça. Enfin, derrière, il y a plus que ça. Pour le dire vite, un ENT, donc un environnement numérique de travail comme ESUP, n'existe que s'il y a du contenu. Et quand vous mettez en place un ENT, vous ne pouvez pas mettre en place une simple coquille vide. Et là, la bibliothèque, c'est très pratique, parce qu'eux, au moins, ils ont du contenu, et eux, au moins, ils ont du contenu structuré. Donc, au moment où ESUP a commencé à se mettre en place à Valenciennes, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et automatiquement, ils se sont tournés vers la bibliothèque, puisque nous, on avait un catalogue, on avait des documents, on avait une pratique de la norme de catalogage, toutes les choses qui font, le métier de bibliothécaire, qui rendait très facile l'intégration de ces données. Et puis une chose aussi, c'est qu'on avait des données, puisque il y a beaucoup de services. Donc là c'est le schéma qui présente tous les services impliqués dans un ENT, je vais vous le décrire. Mais beaucoup de ces services avaient des données, peu structurées, voire pas de données du tout. Alors, si on parle de 2 minutes de l'ENT, puisque le portail documentaire aujourd'hui, tel qu'on l'a conçu à Valenciennes, encore une fois, il est là. Il n'est vraiment qu'une des briques de l'ENT. À côté de ça, vous voyez qu'on a la scolarité, donc les emplois du temps, les notes, la gestion de ressources humaines, le patrimoine, quand il y en a un, chez nous, il n'y en a pas. La recherche, donc les archives ouvertes éventuellement. Donc ça, c'est une question qu'on est en train de se poser. Et la pédagogie. Autre particularité de Valenciennes, on a un gros projet de mise à disposition des cours, directement dans l'ENT. Tout ça, c'est possible si vous avez des fournisseurs qui acceptent de jouer le jeu, donc des connecteurs, c'est-à-dire de rendre accessibles leurs données, quel que soit l'environnement. C'est possible si vous avez également donc, ce qu'on appelle un LDAP, c'est-à-dire un annuaire qui référence les droits de tous les utilisateurs, sur les différents connecteurs que vous avez mis en place. Donc c'est ce qui constitue, dans ce schéma simplifié, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle le socle ENT, le LDAP, les services et les connecteurs. Donc si je reprends très rapidement, si on va jusqu'au bout de la logique donc, qui a été retenue, il ne sera bientôt plus nécessaire de se connecter à ce niveau-là. Toutes les données du portail documentaire seront directement accessibles dans l'ENT. Donc j'en arrive à cette petite définition rapide et tout à fait temporaire. À mon sens, c'est le portail documentaire, c'est le point d'accès à toute la documentation de l'institution. Donc quelle que soit son origine. Alors ça peut être un fournisseur de données, type une base de données, un périodique électronique. Ça peut être de l'enseignement, donc comme je vous disais, les cours en ligne, les polis, les annales des années précédentes. Ça peut être de la recherche. Ça c'est quelque chose qui doit se trancher assez vite, puisque donc on a parlé du protocole d'accord. Mais par exemple, on a constaté à Valenciennes qu'un certain nombre de chercheurs ont déjà commencé à publier dans HAL, puisque notre base de recherche, notre base d'archives ouvertes prend du temps à se mettre en place. Donc après, bien sûr, vous voyez qu'il faut rattraper le temps perdu, il faut changer les pratiques. Et la dernière chose qu'il est prévu d'intégrer en termes de documentation, c'est toute la partie administrative. Puisqu'un ENT ne concerne pas seulement les étudiants, il concerne également le personnel et les chercheurs. Et a priori, le personnel d'une université a surtout besoin d'un certain nombre de documents administratifs. Donc il faut également intégrer ce genre de données. En termes de support, bien sûr, on est censé reprendre l'intégralité de ce qui se fait sur un campus universitaire. Les CD-ROM, donc c'est marginal. La numérisation, alors là c'est un terme un peu, c'est pas du tout ce qui est fait à la BNF. Ce sera plutôt de la numérisation plus ou moins manuelle des documents les plus demandés à la bibliothèque, que sont par exemple les annales de STAPS de l'année précédente, pour donner un exemple très précis, qu'on en a marre de sortir systématiquement des magasins, mais ça peut être aussi donc des documents numériques natifs, plutôt pour la documentation administrative cette fois. Alors qu'est-ce que ça change pour la bibliothèque? La première chose que moi je vois depuis 3 ans que je suis ce dossier, c'est qu'on est dans une logique de l'accès et non plus dans une logique de la collection. Si vous n'avez pas le volume ou si vous n'avez pas le bouquin idéal sur tel ou tel sujet, on peut toujours trouver des palliatifs. Si vous n'avez plus d'accès à votre portail documentaire, automatiquement les téléphones se mettent à sonner, on reçoit des emails de partout. Bon, c'est une autre logique qui nous oblige à garantir un accès permanent à cette documentation. Ce qui n'était pas le cas au niveau du livre, hein, ce qui n'était pas forcément le cas à ce point-là au niveau du livre. Mais là, au point de vue des tuyaux, on est censé garantir l'accès, garantir le bon fonctionnement des tuyaux. Alors si la documentation se dématérialise de plus en plus, ça implique finalement que la bibliothèque a... nous, on envisage littéralement une sorte d'astreinte pour avoir un fonctionnement correct, on va dire, régulier. La deuxième chose que ça fait évoluer dans la bibliothèque, c'est qu'on passe, à mon sens, d'une logique du document, qui était celle de la collection, à une logique de service. Le portail documentaire étant, tel qu'on l'avait conçu nous, un guichet unique, tout doit passer par lui. Ça veut dire que ça implique de faire rentrer tous les services dans la même boîte, ce qui n'est pas toujours évident. Quand vous avez des demandes des usagers d'un côté, des demandes des professionnels de l'autre, voire des demandes de l'institution qui veut publier tel ou tel document. Donc ça implique de pouvoir penser globalement tous les besoins de l'institution. Quand on parle de service, il y en a un qui est essentiel, donc qui rejoint ce qui se fait déjà depuis quelques années quand même dans les bibliothèques universitaires, c'est la formation des usagers. On ne met pas en place une interface, sauf quand on s'appelle Google, mais on ne met pas en place une interface sans former les usagers, ça c'est pas possible, sans former aussi les personnels, puisque c'est eux qui seront au contact directement des usagers. Donc c'était une de nos missions les plus importantes au sein de la cellule TIS depuis 3 ans, c'est de former à la fois les personnels et les usagers à cette nouvelle interface. Si on parle de service et si on parle d'accès, eh bien, il faut bien sûr aussi accompagner donc cette logique. La réinformatisation du SCD de Valenciennes, pour vous donner un chiffre, si on inclut le matériel comme on l'a fait justement, ça représente 800 000 euros, puisque dedans on a rééquipé pour une centaine de postes, enfin plus qu'une centaine de postes même. On a compris l'équipement dans la réinformatisation, c'est-à-dire qu'on a voulu augmenter le nombre, très concrètement, le nombre d'ordinateurs qu'avaient les lecteurs sous les yeux, jusqu'à saturer l'espace, on va dire. C'est-à-dire que, à côté des livres, il y a systématiquement un ordinateur. C'est la logique qui a été retenue pour faire du portail un outil comme un autre, un livre comme un autre. C'est un peu l'idée. Ça va de pair donc avec le déploiement du Wi-Fi. Donc ça, c'est vraiment, je pense que si vous l'avez vu dans d'autres universités, c'est une opération qui marche très bien. C'est-à-dire que les étudiants entrent dans la bibliothèque avec leur portable et ils sont directement connectés. C'est technologique, ça a l'air d'être un gadget. En fait, ça modifie complètement le comportement des lecteurs, dans le sens où vraiment leur ordinateur devient un point d'accès direct à la documentation. Je ne dis pas que c'est tous les lecteurs. Hein. Vous avez 80% de sites divers et de chats, mais il y a quand même 20% de documentaires qui passent dans les tuyaux du Wi-Fi et du portail documentaire. L'autre opération dont tout le monde a entendu parler, c'est notre MIP, Micro Portable Étudiant, ça va dans le même sens. On a évoqué le cas de Chibolette tout à l'heure. Donc pour nous, ça veut dire de l'accès distant, essentiellement. Ça veut dire de permettre à certains enseignants, on va dire, puisqu'on est une université de province. On a beaucoup d'enseignants TGV, comme on dit. Donc si on veut valoriser un outil comme le portail documentaire, qui contient donc des bases de données relativement chères, il faut aussi leur permettre d'y accéder de n'importe où, que ce soit de chez eux, de la gare ou de l'université. Dernière chose que j'ai oublié de marquer ici, on a poussé l'accompagnement jusqu'à prêter des portables en fait aux étudiants. Et encore une fois, c'est une opération qui marche très bien. C'est-à-dire que, comme ils empruntent un livre, ils peuvent emprunter un ordinateur. Ça banalise complètement l'accès à la bibliothèque numérique. Le but, c'était vraiment de faire de tout ça quelque chose de naturel, qu'il n'y ait plus la moindre barrière, en fait. Alors, en termes de métier, cette fois-ci, je résume ça dans un... Il y a deux points qui me paraissent importants. Le premier, c'est l'évolution de la gestion de collection. On est passé, à mon sens, plutôt à une gestion de flux. Dans un premier temps, il y a toujours une politique documentaire, puisqu'on fait de la sélection. Donc le BBF a parlé de politique documentaire numérique récemment. Enfin, c'est Couperin qui utilise ce terme. C'est vrai que ça se conçoit. On adapte notre offre à la demande des usagers, quel que soit le support. Ça ne change pas. Ce qui change, par contre, c'est l'intégration d'objets tout à fait nouveaux. Donc, je vous ai parlé des annales numérisées. Il y a des expériences qu'on n'a pas menées, mais qui sont celles des e-books. La documentation pédagogique en général, c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes pratiques que nous. La troisième chose, c'est ce que je résumerais sous le terme de flux externe. Autrement dit, donc les RSS, par exemple. Ça peut être les nouveautés, qu'elles soient produites par Electre, qu'elles soient produites par Amazon, qu'elles soient produites par le catalogue directement. Et la dernière évolution, donc en matière de gestion de flux, c'est la production de flux à l'intérieur du portail documentaire. Alors, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on n'a pas été habitué tellement dans les bibliothèques jusqu'à présent. Ça marche très bien quand c'est automatisé, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça marche beaucoup moins bien quand il y a une intervention manuelle, une intervention de l'équipe de la bibliothèque. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est la partie authentifiée du portail de Valenciennes. Autrement dit, je suis un lecteur qui s'appelle Marie Mollet, ici, et j'ai accès à un certain nombre de services quand je m'identifie. Le premier service, donc vous voyez, pour vous donner un exemple, c'est « Oups, j'ai des livres en retard ». Voilà, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est généré automatiquement, ça pose aucun problème. Il y a trois services qu'on avait voulu mettre en place. Le premier, c'est de proposer simplement des sélections, voire des pointages sur des documents dans notre collection. Donc on avait appelé ça piste de recherche. Quelques requêtes utiles et... Oui, c'est à peu près lisible. Quelques requêtes utiles, ce serait par exemple de rassembler tous les documents, enfin, que les bibliothécaires produisent des listes, par exemple, sur tous les documents qui correspondent au programme de la grecque de l'Ec moderne 2006. Donc là, vous avez Jules Verne, puisque c'était l'année de Jules Verne. Voilà, vous avez François Mitterrand, parce que ça faisait 10 ans, etc. Bon. Les listes que vous avez sous les yeux, c'est les mêmes, malheureusement, c'est les mêmes que quand on a ouvert le portail. C'est-à-dire il y a un an. Parce que ça implique un travail de la part des équipes, de la part des bibliothécaires. En fait, c'est un travail qu'ils font naturellement quand on leur pose une question bibliographique. Simplement, ils n'ont pas l'habitude de l'enregistrer, ils n'ont pas l'habitude de la mettre spontanément à disposition des lecteurs. Pareil sur la deuxième partie qui s'appelle « Connaissez-vous l'usine nouvelle ?». Là, c'est pareil, c'est un exemple qui nous sert depuis un an. On a voulu mettre en valeur un nouvel abonnement à l'époque, l'usine nouvelle. Ça fait un an que ça y est. En ce qui concerne les actualités, c'est plutôt les actualités de la bibliothèque, les nouvelles expos, les choses comme ça. Alors là, c'est mitigé. C'est mitigé, puisque si on est obligé quand même, les chefs de service sont obligés quand même de surveiller un peu que ça bouge, puisque sinon on a des expositions qui auraient 6 mois, ou des nouvelles acquisitions, ou des événements qui seraient complètement dépassés. Donc là, on va dire que c'est un petit peu surveillé. C'est pas d'une très grande fraîcheur, et c'est pas du tout dans les pratiques quotidiennes de mes collègues. Par contre, ce qui marche très bien, puisque c'est automatique, c'est les nouvelles acquisitions, forcément. Là, il suffit de mettre à jour une liste et hop, on a les nouvelles acquisitions de l'OPAC directement dans le portail. Ça marche, il n'y a pas de problème. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait les pratiques ne suivent pas toujours les interfaces qu'on met en place. Et ça, je vais y revenir. Alors en ce qui concerne le métier du e-bibliothécaire, À mon sens, il y a une chose qui a changé, c'est qu'on est passé d'une logique de maintenance. C'est-à-dire, vous aviez un SIGB, il fallait maintenir le SIGB. Vous aviez un réseau de CD-ROM, il fallait maintenir le réseau de CD-ROM. À une vraie logique de gestion de projet sur le long terme. Vous avez toutes ces briques, celles-là, elles sont toujours là, le réseau de CD-ROM, le SIGB, le portail, mais il faut faire plus que les maintenir, puisqu'il faut les intégrer, il faut pouvoir les exporter vers le NT ou vers l'UNR, puisqu'il y a ça aussi qui est en train de se rajouter, donc une couche supplémentaire. Il faut vérifier que cette intégration se passe bien et qu'elle va de pair, en fait, qu'elle évolue en parallèle. Si vous faites évoluer votre SIGB et que votre portail n'est pas mis à jour, vous perdez quasiment à tous les coups l'intérêt d'avoir un portail. Donc ça, c'est ce que j'appellerais l'intégration des briques logicielles. Aujourd'hui, c'est une fois que le projet est à peu près à son terme, c'est ce qui reste à faire tout le temps, puisque les briques évoluent et qu'il faut vérifier donc, qu'elles évoluent en même temps. Deuxième chose, en termes d'évolution du métier, dans la gestion de projet, il y a l'adaptation aux besoins locaux. Ça rejoint ce que j'évoquais sur l'open source. Vous pouvez difficilement, sur un projet de portail documentaire, implanter directement une solution toute faite. Dans tous les cas, il y a une adaptation à faire parce que vos chercheurs ne seront pas, de toute façon, comme les chercheurs de l'université d'à côté. La pédagogie réagira pas de la même façon, etc. Troisième point, donc c'est l'évolutivité du projet. Les protocoles évoluent. Donc j'ai parlé du RSS. L'OAI s'est imposé depuis quelques années maintenant. Il faut suivre. Donc il faut mettre à jour toutes les briques et le portail lui-même par-dessus. Et dernier point qui me paraît vraiment fondamental, c'est le dialogue avec les nouveaux acteurs. Donc comme je vous disais, le NT, la mise en place de l'ENT oblige à travailler assez étroitement avec la bibliothèque parce qu'elle fournit du contenu. Ça implique dans l'université de pouvoir dialoguer avec les responsables informatiques, mais aussi donc une grosse partie des instances politiques. Notamment au niveau des chercheurs, etc. Enfin, puisqu'il faut impliquer tous ces acteurs d'une façon ou d'une autre. Et dernière chose sur cet aspect dialogue, c'est des projets, donc je vous ai dit, très coûteux, puisque le portail, la mise en place d'un portail comme celui-ci, à l'époque, ça nous avait coûté entre 200 et 250 000 euros. C'est des sommes qu'aucune bibliothèque, enfin surtout de notre taille, n'a en réserve. Donc il faut forcément impliquer directement l'université. Il faut que l'université y trouve son compte. Quand vous êtes dans ESUP, il n'y a pas de problème, parce que ESUP a besoin de ce genre d'objets pour avancer. C'est vrai que pour nous, ça a été un atout. Alors en termes de compétences, puisque c'est une question qui m'est souvent posée quand on vient voir ce qui se passe à Valenciennes, la première, et je ne m'étendrai pas dessus, c'est ce que j'appelle des notions informatiques de base, savoir ce qu'est un réseau, savoir ce qu'est une base de données, je pense que ça suffit largement. Plus précisément, il faut quand même pouvoir dialoguer avec des informaticiens. Je pense que c'est le seul point fondamental. Quand vous faites des jolis schémas avec des patates, comme je vous en ai montré tout à l'heure pour le NT. Il faut que les informaticiens puissent le comprendre, il faut que les bibliothécaires puissent le comprendre. Donc ça implique effectivement quelques notions d'informatique. Deuxième point, la curiosité et l'imagination. Alors c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. On a parlé un peu d'Amazon tout à l'heure. Je pense qu'il y a énormément de choses à glaner. Dans ce qui est en train de s'appeler, de se mettre en place sous le nom de Web 2.0, c'est-à-dire tous ces services, enfin tous ces sites qui sont très orientés services et qui sont très orientés vers l'usager. C'est une logique qu'on a essayé de retenir à Valenciennes. À l'époque, on ne parlait pas de Web 2.0, on ne parlait pas d'une approche service. Mais, par exemple, ce petit onglet, donc Recherche Express, que vous voyez ici, qui est présent sur toutes les pages, On l'a voulu et on le fait, enfin on le valorise auprès des étudiants et des usagers, on l'a voulu exactement comme la case de saisie unique de Google. Elle est toujours là, elle recherche avec une indexation très large, enfin elle recherche vraiment sur l'ensemble du catalogue. Et dans les premières statistiques que j'ai pu faire au bout d'un an de consultation, enfin au bout d'un an de fonctionnement, on se rend compte que c'est quasiment la seule source utilisée par, enfin le seul moyen d'interroger le portail qui est utilisé par par les usagers dans la bibliothèque. Autrement dit, une fois qu'on leur a montré ça, ils font que ça. C'est un peu gênant, vous allez me dire, mais au moins c'est relativement efficace. Pour une petite bibliothèque, pour une petite bibliothèque de 100 000 documents, je pense que ça correspond assez bien. Ça leur permet de trouver à peu près toujours de la documentation. Donc ça, c'est un exemple de service qu'on a voulu mettre en place. Il y en a d'autres, j'en reparlerai. En ce qui concerne, donc pour continuer, donc l'imagination, donc c'est ce qu'on peut aussi appeler de la veille technologique, voir ce qui se fait ailleurs, suivre l'évolution des protocoles, suivre l'évolution des logiciels, ça c'est relativement classique. Le dialogue, donc j'en ai déjà parlé, il est politique et il est technique, avec les différents intervenants d'un projet comme celui-ci. Ce que ça implique comme changement, le premier, et c'est pas toujours évident à faire comprendre aux collègues, c'est que l'institution n'est quasiment plus propriétaire de sa documentation et que son site web, donc le portail documentaire, n'est plus qu'un tuyau, en fait. On gère des tuyaux, on gère quasiment plus ce qu'il y a dedans. Deuxième chose, en termes de changement, les compétences techniques se sont imposées, vraiment de façon omniprésente. Si vous n'avez pas un informaticien ou des gens un petit peu formés, ça devient difficile de faire en permanence fonctionner ce genre d'interface. Troisième changement, donc. Encore une fois, le rôle politique, j'insiste là-dessus, puisque c'est souvent ce qui est très difficile à faire au sein d'une université. Le portail documentaire doit avoir un rôle politique. Il faut arriver à le faire comprendre aux chercheurs, il faut arriver à le faire le comprendre même au niveau des instances et de la présidence de l'université. Sinon, il reste une belle coquille vide, en fait. Vous allez mettre en place quelque chose de très coûteux, qui sera très beau, mais qui ne sera pas utilisé, tout simplement. Et dernier point, donc la logique de service orientée vers l'usager. Ça encore, c'est quelque chose d'assez différent des pratiques encore présentes dans les bibliothèques, de faire des beaux outils pour les collègues. Enfin, je caricature, mais on a un peu tendance à se faire plaisir et à mettre en place des beaux outils pour les professionnels, en oubliant que notre principal client, c'est l'usager. Enfin, client, on va dire. Bon, ça peut se discuter. À côté de ces changements, il y a quand même quelques permanences. Il faut quand même être précis là-dessus. La première, et c'est ce qui explique pourquoi un ENT a besoin aussi d'un portail documentaire, c'est le respect des normes. On est donc dans un métier qui a l'habitude de respecter de la norme, que ce soit en description bibliographique, en gestion des autorités ou en indexation des documents. C'est pas évident pour un chercheur d'écrire simplement son nom correctement dans une archive ouverte. Il va l'écrire, il ne sait pas s'il faut mettre majuscule, minuscule, ça c'est une première chose. Est-ce qu'il faut mettre tous ses prénoms, point, est-ce qu'il faut mettre l'initiale et le point, etc., dans quel ordre? C'est là qu'on intervient. Et le portail documentaire, c'est aussi un moyen pour la bibliothèque de dialoguer avec et de s'investir donc plus précisément avec les chercheurs, avec tous ceux qui vont à terme produire du contenu dans le portail. Ce que j'appelle les contenus externes, hein, puisque la production de métadonnées, elle concerne la recherche, mais elle va concerner chez nous également la pédagogie, donc tous les documents pédagogiques. Comment est-ce que vous décrivez un cours? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que vous l'indexez en rameau? Ça peut se discuter. Est-ce que vous l'indexez en D-Ware, enfin, etc. Comment est-ce que vous le classez ensuite? Ça implique, donc cet effort de normalisation implique de suivre ce qui se fait et d'intervenir dans certains groupes de normalisation, comme il y en a en ce moment, qui se mettent en place. Donc j'en ai cité deux, qui sont bien au-delà du catalogage. Le premier, c'est TEF, donc la norme proposée par la BES pour le catalogage des thèses. Et la deuxième, c'est l'OMFR, donc c'est Learning Object Model, c'est la norme de métadonnées utilisées pour décrire les objets pédagogiques. Donc les cours, très concrètement. Ces deux normes sont en discussion. Quand on les regarde, on voit que ça a été discuté par des bibliothécaires, mais aussi énormément d'acteurs industriels. Donc c'est là qu'il faut, pas, faut faire très attention à ne pas se laisser déborder par des demandes qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Et donc pour conclure, qu'est-ce que peut être un portail documentaire ? Donc comme vous l'avez compris, c'est une nouvelle organisation dans les bibliothèques, puisqu'il faut à la fois faire produire du contenu et il faut intégrer des contenus très variés. C'est aussi une interface qui doit toujours être repensée. Donc j'ai caricaturé en disant qu'elle est à repenser à chaque marché. Oui, mais elle est à repenser quasiment en permanence. Puisque donc, tout évolue, hein. Enfin, toute l'informatique documentaire évolue. Et elle évolue tellement qu'on voit que certains portails de bibliothèques font un effort. Hein, donc, donc là, je passerai. Vous aurez un exemple avec ce qui se fait à Angers, j'ai l'impression. Elle évolue donc vers ce qu'on appelle la bibliothèque de zéro, qui serait en fait une bibliothèque beaucoup plus tournée vers les services, beaucoup plus tournée vers l'usager, avec donc la possibilité de créer des collections, la possibilité d'annoter ou la possibilité de créer des communautés autour de la documentation. Mais là, bon, bien sûr, c'est vraiment à venir. Voilà. Et pour terminer, donc, je vous ai donné l'adresse du site qu'on avait mis en place à Valenciennes, où c'est l'exemple, c'est l'exemple qui m'a permis d'élaborer tout ça.
Merci à Guillaume Hatt. Alors, est-ce que vous auriez des questions relatives à cette intervention sur les portails ?
Vous avez parlé de flux RSS. Comment est-ce que vous les intégrez dans votre portail ?
Alors, le flux RSS, c'est un très bon exemple de ce qu'on n'a pas intégré, justement, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc, on envisage de les intégrer directement, en fait, au niveau de l'accueil identifié. Parce que le but est de profiler quand même un maximum les données, donc de donner le choix au lecteur de s'abonner à tel ou tel fil RSS. Mais ça c'est du développement. Pour l'instant, c'est pas en place puisque ça n'existait pas. Enfin, la norme existait, mais ça n'avait pas l'essor qu'on voit aujourd'hui.
Une autre question, puisqu'on est sur cette page dont vous avez jugé justement qu'il y a des problèmes pour l'actualiser. Comment vous pourriez impliquer davantage les personnels sur justement la nécessité de mieux dialoguer, de mieux présenter tout ce qui pourrait aider le lecteur.
En parlant de
motivation.
Oui, tout à fait. Enfin, je vois le problème. Chaque fois que je regarde cette page, je le constate. En fait, ça va de pair avec une évolution du métier. Qui est de faire passer, par exemple, du catalogueur ou de l'acquéreur à un vrai gestionnaire de collection. On a un circuit du livre un peu assez simplifié à Valenciennes, puisqu'on est une petite bibliothèque, mais ce qu'on essaye de mettre en place, c'est qu'un acquéreur achète, catalogue, et immédiatement met sur le portail, enfin, fait part à l'ensemble des usagers de cette nouvelle acquisition et de la disposition de ce nouveau document. Ça, c'est pour les nouveautés. Mais comme les catalogueurs font des acquisitions dans des domaines, on essaye, et c'est pas évident, on essaye de leur proposer de faire part de l'actualité de ce domaine sur le plan documentaire dans le portail. Très franchement, si on en est là, c'est qu'on n'a pas réussi. Ça, je reconnais tout à fait. On pense à l'inclure dans les fiches de poste. C'était une des solutions qui était envisagée. Puisqu'on considère qu'un acquéreur en physique, à la rigueur, il est censé maintenir les actualités de la physique sur le portail et proposer des pistes de recherche dans ce domaine. Enfin, ça fait partie d'une gestion de collection, on va dire. Mais le problème, c'est d'arriver à sortir du papier, en fait, pour certains acquéreurs. Donc, c'est ce qui bloque aujourd'hui, je pense.
Vous parliez de formation pour intéresser justement les personnels. Est-ce qu'il se pose pas aussi la question de les intéresser en amont du projet et même d'en faire des acteurs, partie prenante du projet, dans le cadre de la mise en place du projet de réinformatisation, avec notamment la rédaction du cahier des charges? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait par un prestataire de service? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait par un petit groupe de travail? Ou bien est-ce qu'il y a eu une tentative d'intéresser on va dire l'ensemble du personnel avec peut-être des groupes de travail plus larges, par thématique, pour qu'ils s'approprient le projet dès le début?
Moi, j'ai pris le projet en cours juste à la fin de la rédaction du cahier des charges. Ce qui a été fait, dans mon souvenir, c'est des groupes de travail encadrés par un consultant sur des points très larges. Le SIGB, par exemple, qui, lui, alors là, effectivement, a provoqué moult et moult discussions, et le portail qui n'a provoqué aucune discussion, forcément, oui, puisque c'était un objet assez nouveau pour mes collègues. Il n'y a pas eu, dans mon souvenir, il y a eu très peu d'acteurs extérieurs, enfin, d'usagers ou de... Non, ça a dû être demandé, mais il n'y a eu aucune implication extérieure.
D'accord.
Alors après, le danger, c'est de concevoir une jolie coquille sans tenir compte des usagers. Ça je vois bien le problème.
Oui, moi, c'était pour être plutôt réactif par rapport à cette page, parce qu'effectivement, vous avez les nouvelles acquisitions qui sont mises à jour, mais... Enfin, l'usager, quand il va arriver sur cette page et qu'il va avoir toujours la même chose dans piste de recherche et actualité, je ne suis pas certaine qu'ils ne mettent pas les nouvelles acquisitions dans le même panier et qu'ils se disent que globalement, du coup, ça porte préjudice à des services qui sont tenus à jour, peut-être même automatiquement. Mais c'est vrai que c'est encore, même pour rebondir sur ce qu'on avait dit sur les archives ouvertes et la question le nouveau mode de fonctionnement, on en revient toujours au fait que l'outil n'est pas forcément le problème, mais c'est plutôt son alimentation, sa mise à jour, sa veille qui est le point clé, parce qu'effectivement, si on a une coquille vide, ça n'attire à personne, même si techniquement c'est très beau et très bien fait. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur cette intervention ?
Du portail, savoir si vous avez une idée de l'utilisation par les différentes catégories concernées, les étudiants, les chercheurs, le personnel administratif, et si vous avez un retour sur la satisfaction de ce public.
Alors c'est un petit peu tôt pour vous répondre, parce qu'en fait on a lancé une enquête de satisfaction par le biais d'un questionnaire il y a 2 mois, donc on est en train de la dépouiller. Globalement, c'est un outil. Oui, c'est un outil qui convient. Alors, c'est un peu terrible à dire, mais c'est un outil qui convient dans sa fonction d'opaque, donc de catalogue. Autrement dit, à peu près 10% du projet ou 20% du projet regroupe 90% des usages. Ça, c'est très clair. Et sur ce plan-là, il satisfait entièrement. En termes de statistiques d'utilisation, donc on a une production très dense de statistiques, puisqu'on a essayé d'adapter notre monitoring, on va dire, aux demandes ministérielles, donc ce qu'on appelle le RE, l'enquête sur les ressources électroniques, des choses comme ça. Ce qu'on a constaté surtout, c'est le refus quasi systématique des utilisateurs de s'identifier. Ils sont dans une bibliothèque, ils consultent un catalogue. C'est globalement la logique. Et quand on regarde les stats, on est à 99% de non-identifiés, 1% d'identifiés, qui veut, par hasard, parce qu'il a compris qu'on pouvait le faire, il veut voir où il en est de ses prêts. Est-ce que les livres sont à rendre pour telle date ou pas? Ça, c'est la première chose. On a un peu le même problème sur, donc, comme je vous disais, la fonction catalogue qui occupe quasiment tout l'usage. La recherche multisource, qui était le cœur du projet, hein, effectivement, de pouvoir interroger toutes les bases en même temps, est très peu utilisée. Ça doit être de l'ordre de 5 à 10%, même pas des requêtes qui sont faites. Voilà, je pense que... J'ai quelques millions de lignes d'enregistrement à dépouiller pour pouvoir vous répondre plus précisément, parce que c'est très... c'est très lourd en statistiques, en fait, cet outil. Donc, c'est les conclusions qu'on voit depuis un an, à peu près.
J'ai une question sur l'authentification. Est-ce que, donc, ils sont à 99% quelque chose comme ça en anonyme. Mm-hmm. Est-ce que c'est exclusivement pour les postes qui sont à l'intérieur de la bibliothèque ou est-ce que c'est l'usage du portail, y compris pour les gens qui sont à l'extérieur? Et puis, une deuxième question qui est proche de celle-ci. Est-ce que l'authentification qu'il y a ici, elle est mise en œuvre pour le portail documentaire ou est-ce qu'il s'authentifie dans un portail plus global, l'ENT, et qu'il passe en SSO sur votre portail sans avoir à se reloguer? Donc, dans quel cadre ça se passe? Est-ce que ça veut dire que jamais il ne souhaite avoir d'informations profilées et personnelles ou est-ce que c'est plus que les circonstances d'utilisation à l'intérieur de la bibliothèque, par exemple, font que ce n'est pas là qu'ils vont s'authentifier mais que, par ailleurs, dans d'autres usages, ils pourraient s'authentifier et ils font?
La première partie de la question, c'était... Parce que la deuxième, je vois bien, mais...
La première, c'était, est-ce que c'est juste le fait...
Ah oui, pardon, sur place, ou, oui, tout à fait. Alors, à distance, effectivement, ils ont un peu plus tendance à s'authentifier, puisque ce qui les intéresse, là, c'est, par exemple, d'avoir leur compte lecteur. Donc là, les statistiques sont de l'ordre de 15 à 20%. Il faudra que je revérifie où c'en est. Là, on a un retour, puisque dès qu'ils n'y arrivent pas, par contre, ils appellent. Alors là, oui, ils envoient un mail Furax, où ils appellent directement. Comment ça, j'arrive pas à consulter mes prêts, etc. À distance, ça marche mieux. Sur place, non, c'est vraiment ce que je vous disais, l'anonyme qui domine. Alors, sur l'authentification unique, c'est la même que dans l'ENT, ça c'est une chose aussi, donc c'est du SSO. Globalement, ils peuvent passer directement de l'environnement numérique de travail au portail documentaire. Comme je vous disais, ce n'est pas forcément ce qu'on privilégie, puisqu'à terme, tout ce que fait le portail documentaire doit être fait directement dans l'ENT. Aujourd'hui, c'est possible de passer de l'un à l'autre. Il s'identifie une seule fois. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous le montre, mais enfin, en gros, c'est une authentification suivie sur tous les sites de l'université. Et c'est vrai que ça facilite la connexion au portail. Je pense que ça fait partie des choses qui facilitent la connexion au portail.
Oui, donc j'aurais une petite question sur... Enfin, peut-être deux questions. La première sur la recherche fédérée. Est-ce qu'elle n'est pas utilisée parce qu'elle n'est pas mise en avant ou parce qu'il n'y a pas de besoin?
Excellente question.
Non, parce que là, je ne la vois pas.
Non, là, j'ai simplifié. Hein, je...
Voilà, non, c'est ce que je veux dire sur la page d'accueil du portail. Elle est là. Alors, la recherche.
Ouais, elle s'appelle Multisource, mais c'est voilà. Une recherche fédérée, oui.
Parce qu'en général, vu ce que j'ai un peu d'ailleurs, c'est quand même un besoin enfin, qui ressort des chercheurs, des étudiants, à partir d'une requête unique, à les recherches. J'ai sur plusieurs sources, par exemple des sources périodiques électroniques, des catalogues, des annales. Et vous vous dites 5%, est-ce que c'est 5% parce que...
Oui. Non, en fait, c'est un besoin à partir d'un certain niveau d'études, en fait, j'ai l'impression. Nous, on est une université qui est à dominante premier cycle, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Quelques masters, quelques chercheurs, il doit y avoir 15 thèses soutenues par an, enfin, bon, c'est assez marginal. Dans les premiers cycles, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Ils font de la recherche fédérée tout le temps puisqu'ils passent par Google, ils ne s'en rendent pas compte. Déjà, quand vous arrivez à les faire sortir de Google et les faire venir sur un portail documentaire, vous êtes très content. La recherche fédérée ne correspond simplement pas à leurs besoins, alors qu'on a intégré des ressources documentaires de niveau premier cycle, type généraliste, type DELF, enfin, qui sont des bases de dépouillement de revues grand public. Ça ne justifie pas l'utilisation d'une recherche multisource. Pourtant, je peux vous assurer, c'est quelque chose qui est montré systématiquement tout au long de l'année, lors de toutes les formations qu'on fait aux étudiants. Et on voit plus de 60% des nouveaux étudiants de l'université à la bibliothèque. Donc s'ils ne s'en servent pas, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. C'est peut-être simplement ça.
Et est-ce que dans la recherche fédérée, Au niveau connecteur, est-ce que... Bon, là, j'ai compris que le besoin n'est pas récent, mais est-ce qu'au niveau connecteur, est-ce que vous avez inclus des connecteurs sur tous les éditeurs de périodiques, enfin, sur certains éditeurs périodiques connus, Springer, je crois, Nature, mais bon, c'était plus notre cas à nous, mais vous, est-ce que vous avez prévu ces connecteurs-là ou ça reste vraiment généraliste?
Alors, on a prévu un connecteur qui risque de fonctionner, qui est celui sur Science Direct, avec des gros problèmes juridiques, puisque Elsevier n'autorise pas ce genre de choses. Mais enfin, on a pris le droit de le faire, puisqu'il ne nous a jamais dit non. Donc, on a dit qu'on pouvait le faire. C'est le seul donc, qu'on est ajouté comme connecteur.
OK. Et la deuxième question, c'est est-ce que dans votre portail, est-ce que la fonctionnalité GED ou travail collaboratif, Elle se fait au niveau de la bibliothèque ou au niveau de l'ENT, donc un autre service?
Alors la GED officiellement se fait au niveau de l'ENT. C'est quelque chose qui avait été écarté complètement de notre cadre de marché. Donc c'est un cours de mise en place dans ESUP, directement dans le portail ESUP.
On va bientôt devoir conclure. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non, bah, pour terminer, peut-être, j'aurais voulu dire un mot concernant les postes qu'on peut vous proposer aux sorties d'ENSIP, par exemple. Il y en a de plus en plus qui sont des postes de gestion de la documentation électronique ou de réinformatisation, de mise en place d'un portail. Ce sont des choses auxquelles vous allez être confrontés concrètement le mois prochain. Juste mon expérience, parce que moi, en sortant de l'ENSIP, c'est sur un poste comme ça que j'ai été recrutée. Juste pour vous dire que ce sont des postes qui sont éminemment transversaux, c'est-à-dire qui implique à la fois un travail transversal au niveau du SCD, et Dieu sait qu'il peut exister des logiques de section au sein même des bibliothèques d'un SCD. Donc ça implique vraiment un travail de parler avec les gens, je parlais de groupe de travail pour mettre en place un projet de réinformatisation, c'est le choix qu'on a fait à Nancy 1, ça a été un petit peu long, mais on a décidé de pas du tout passer par un prestataire et de prendre le temps de mettre en place des groupes de travail, aussi bien pour le portail que pour le SIGB, pour impliquer au maximum les personnes. Alors celles qui veulent vraiment pas être impliquées dans un projet, on pourra jamais les forcer, mais en tout cas on leur donne la possibilité de s'impliquer, de s'informer en amont du projet et puis durant ce projet. Donc il y a cette notion de transversalité au niveau du SCD. Elle est aussi très forte au niveau de l'université parce que se réinformatiser, moi dans mon établissement par exemple, on refuse le terme de réinformatisation du SCD. C'est réinformatisation de l'université au sens large, c'est un projet qui est commun à l'université. Ça implique donc des relations très fortes avec le centre de ressources informatiques, le CRI, parce qu'il y a toute une partie qui est extrêmement technique qu'on est obligé de déléguer et pour lesquelles il faut travailler en partenariat. Donc ça implique ce travail-là avec les gens des ressources informatiques, mais également des gens des TIS, pour tout ce qui peut être briques documentaires plus pédagogiques ou s'intégrer dans des briques qui existent déjà et qui peuvent être aussi documentaires. Donc c'est aussi s'adapter à un environnement qui existe déjà quand on arrive sur des projets comme ça. On parlait de NT, du NR, on n'arrive jamais sur des terrains neutres, donc il faut savoir s'adapter. Et donc, comme vous disiez que ça nécessite des compétences précises, vous parliez d'informatique de base. Mais moi, ce que je voudrais vous dire aussi pour vous décomplexer, c'est qu'on ne sait jamais tout sur tout. Et quand on arrive, parfois, on ne comprend pas forcément ce que les gens nous disent. Et ce qui est important, c'est de s'entourer aussi de personnes qui sont spécialistes dans des domaines bien précis, parce qu'on ne pourra jamais tout maîtriser. Et quand on a vraiment une équipe de travail qui ont des compétences fortes sur des points clés, c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut mener des projets à terme et aussi bien que possible. En tout cas, on espère. Voilà. Écoutez, on se retrouve cet après-midi pour la table ronde à 14h, donc après le déjeuner. Bon appétit.